venir en ta présence, couvert par le sang de Jésus-Christ, purifié, racheté, pardonné, justifié, parce que tu es ce Dieu et ce Père qui nous aime infiniment et qui a tout fait pour nous réconcilier avec toi. Merci vraiment pour cette communion que nous pouvons avoir avec toi et aussi les uns avec les autres. Et je prie maintenant que ton esprit, cet Esprit Saint que tu as fait habiter en nous après l'ascension de Jésus-Christ, cet Esprit Saint qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet esprit de puissance irrésistible, cet esprit d'amour, de sagesse, vienne ouvrir nos cœurs, notre intelligence, pour que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire, que nous puissions le garder, que nous puissions le ruminer, et qu'il puisse germer, s'enraciner profondément en nous et porter du fruit. Amen. Je prie pour les enfants aussi, pour qu'ils puissent recevoir ce que tu leur donnes aussi, au travers des moniteurs. Conduis les moniteurs, donne-leur ta parole, ton amour, ta douceur, ta tendresse, pour qu'ils te reflètent auprès de ces enfants et que ces enfants reçoivent ton amour au travers d'eux. Amen. Matthieu 6:6. Mais juste un verset. Hein. Mais toi, alors ça commence par « mais ». Donc il y aura quelque chose avant, on y reviendra tout à l'heure. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je vais donner une sorte de définition de la prière, et puis on verra les obstacles. On pourrait parler pendant des heures sur la prière, ça pourrait être interminable, c'est pour ça qu'il y a autant de livres aussi qui sont écrits à ce sujet. Donc j'ai choisi de me limiter vraiment au fait d'une courte définition, enfin courtement parler d'une définition, et puis après voir les obstacles, parce que ce qui m'intéresse, c'est la pratique de la prière dans nos vies. C'est pas tout, c'est comment est-ce qu'on peut développer de plus en plus notre vie de prière. Donc on verra les obstacles qui nous empêchent justement de vivre de plus en plus dans la prière, et puis les motivations, parce que pour moi le moteur c'est ce qui fait avancer ma voiture. Si mon moteur est en panne, ma voiture n'avance pas. Donc les motivations qui peuvent nous aider à développer notre vie de prière. D'abord, une définition. Comment est-ce que vous-même, vous définiriez la prière? Je vous laisse un peu travailler. Parler à Dieu. J'avoue que j'étais un peu silencieuse le jour où on m'a posé la question de but en blanc comme ça, parce que je ne savais pas vraiment... Comment définir la prière à ce moment-là? J'ai dû me réfléchir un peu et voir ce qu'était la prière dans ma vie pour pouvoir donner une définition. Et donc j'ai dit à la personne qui m'a posé la question, je rentre chez moi et puis je te répondrai quand j'aurai trouvé ma définition. Et en fait, j'ai trouvé ma définition dans la voiture en rentrant. Je me suis dit, mais pour moi, la prière, c'est toute ma relation avec Dieu. Mais je n'avais jamais vraiment lu de livre où je la trouvais définie ainsi. Et je suis rentrée et j'ai trouvé cette définition dans le livre de Richard Foster, mais j'y viendrai tout à l'heure. D'abord, je voudrais m'arrêter plus sur ce verset. « Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Contrairement à tout ce qu'on lit dans les Épîtres et même dans les Évangiles, on a là un des seuls versets où il est parlé du fait de prier en individuel. La majeure partie des versets et des commandements qui sont donnés sur la prière sont donnés au pluriel. Louez Dieu, adorez-le, soyez reconnaissants, confessez, demandez, priez sans cesse. On a toujours des impératifs au pluriel. Pour parler aussi de la prière communautaire. Jésus, ici, s'adresse à nous individuellement. Il est parlé de la prière avec un pronom au singulier. C'est entre Dieu et moi, et orienté, centré sur Dieu. Jésus ne dit pas non plus « si tu pries », mais il dit « quand tu pries ». Le fait de prier est juste une évidence. On ne se pose même pas la question de savoir si on prie ou si on ne prie pas. On prie, c'est tout. On va voir donc ce qui nous aide dans ce cheminement de prière individuelle centré sur Dieu. Et la définition que j'ai donnée, c'est vraiment le fait que la prière est une relation. Tu as dit, Pierre, tu as dit prier à Dieu. J'aurais dit prier avec Dieu, parler avec Dieu. C'est une relation, et Richard Foster l'a définie comme une relation d'amour croissante et continuelle avec Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On a l'habitude aussi d'entendre la prière définie comme un moyen de grâce, une discipline spirituelle. Alors, ça veut dire la même chose, en fait, discipline spirituelle et moyen de grâce. En tant que Français, on a un petit peu de mal avec le mot discipline. Alors, j'aime bien utiliser ce mot moyen de grâce, qui est le moyen par lequel Dieu déverse sa grâce sur nous, sur l'Église et sur ce monde. Relation d'amour continuelle et croissante avec Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit, qui convient à tous et qui a pour fin un total abandon d'amour envers le Seigneur. C'est ça, on a parlé tout à l'heure de s'abandonner, mais oui, c'est ça, c'est être comme un petit enfant dans les bras de son père. Je vois les deux petits enfants là qui sont dans leurs bras du papa, de la maman, et c'est un régal, c'est un plaisir de voir ces enfants abandonnés comme ça dans les bras de leurs parents. Et bien la prière, c'est ça pour nous avec Dieu. Moyen de grâce, c'est, je la définis aussi comme un cadeau. Le cadeau, un cadeau d'une valeur inestimable, un cadeau que Dieu... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi je suis toujours époustouflée par le fait que ce grand Dieu de l'univers qu'on a décrit tout à l'heure comme le Dieu souverain, comme le Dieu au-dessus de tout, comme le Dieu dont la puissance est irrésistible, ben ce Dieu-là est mon Père et il me prend dans ses bras. Et il me donne, et il aime me donner. Il aime que je sois avec lui. Il aime que je vive jusqu'à ce cœur à cœur avec lui. C'est un cadeau inestimable à consommer sans modération. Pour aller plus loin dans la prière et sur son contenu, je voudrais vous lire un passage d'un livre de Daniel Bourguet que j'aime beaucoup, qui s'appelle « La méditation de la Bible ». Peut-être vous avez entendu Daniel Bourguet, qui était un responsable de la fraternité des veilleurs. Et il dit « Dans la prière, l'homme parle et Dieu écoute. Dans la méditation, Dieu parle et l'homme écoute. L'homme écoute ce que lui dit Dieu, et il ne fait que cela, écouter. La prière s'inscrit dans la logique de la méditation. Si l'un des deux éléments manque, le dialogue devient boiteux, c'est pour ça que je disais parler avec Dieu, et finit par ne plus être dialogue. Celui qui prie sans jamais méditer, sans jamais écouter Dieu, court le grand risque de tuer sa prière à petit feu pour la réduire à un monologue intérieur qui tourne en rond. Et cela arrive. Certaines personnes vivent parfois leur prière comme un désespérant monologue intérieur. Mais nous aussi, parfois. Cette situation vient du fait que nous n'avons pas pris la peine d'écouter Dieu, et ce qui est terrible, que nous le contraignons au silence. Quand on parle et qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas écouté, on finit par se taire. Retrouvons l'écoute, la méditation, soyons disponibles et attentifs, et Dieu, dans sa grâce, nous donnera de l'entendre à nouveau. Alors notre prière redeviendra une authentique prière. Quiconque prie a besoin de la méditation pour la bonne santé de sa prière. La prière est vraiment un échange à double sens, la parole et l'écoute de part et d'autre. Nous avons parlé aussi d'un cœur à cœur, ce qui veut dire un dialogue dans la vérité, dans l'honnêteté, dans l'authenticité. Et cela nous demande vraiment de nous poser pour rencontrer, pour savoir que nous sommes en train de rencontrer Dieu, de conscientiser qui nous sommes, cette créature devant son Créateur, cet enfant devant son Père Céleste, cet ouvrier devant son Maître, ce serviteur devant son Roi. Mais Jésus va plus loin dans Jean 15, il dit que nous sommes ses amis, un ami devant son ami. Un humain devant le grand Dieu de l'univers, souverain, tout-puissant, tout intelligent, tout amour, omniscient, omniprésent, omnipotent. J'ai besoin de m'arrêter, de me poser, de me positionner dans ce lieu secret et de me rendre disponible, d'ouvrir mon cœur pour écouter ce que Dieu dit à tous dans l'étude et ce que Dieu me dit à moi dans la méditation. Dans la méditation, je peux simplement poser la question « Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui, Seigneur ?» Là où j'en suis dans ma vie, dans la saison de vie dans laquelle je suis, avec les besoins que tu connais que je vais, dans ce que je vais vivre aujourd'hui. Me poser pour écouter ce que Dieu dit à tous et ce que Dieu me dit à moi personnellement. Et puis, lui répondre. Je me pose, je m'arrête pour entrer dans cette relation, dans ce cœur à cœur. Voyons maintenant ce qui peut faire obstacle. Dans une relation, nous sommes deux. Donc si on réfléchit bien, les obstacles peuvent venir soit de l'un, soit de l'autre, soit de Dieu, soit de moi. Il y a aussi un troisième acteur, le destructeur, mais néanmoins il est vaincu. Quels sont les obstacles qui peuvent venir de Dieu ? Je vous pose la question. Parfois, il se tait, peut-être à cause de moi ou pas. Est-ce que pour autant, c'est un obstacle à ma prière ? Au fait que je me tienne devant lui, que je me pose devant lui, que je lui parle ? Mais vous avez bien raison de rester silencieux, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'obstacle de la part de Dieu. Quand on voit dans Ésaïe 59... Ben parfois, oui, il ne répond pas à nos prières, mais il dit que c'est à cause de notre péché. Donc, c'est nous qui sommes les responsables. Par contre, il peut y avoir des obstacles qui viennent d'une mauvaise image que j'ai de Dieu. Si je vois Dieu comme un Dieu lointain, comme un Dieu absent, c'est à nouveau moi la responsable, mais c'est l'image que j'ai de Dieu, comme un Dieu indifférent. Quelle est ma part ? Ça peut venir d'une éducation légaliste, ça peut venir de mon ignorance, de mon manque de connaissance de Dieu, ça peut venir de mécompréhension que j'ai de sa part, de sa personne. Et le remède sera de travailler à mieux connaître Dieu en tant que Père, à mieux connaître Jésus, le Fils qui s'est donné pour moi, et ensemble ils ont donné l'Esprit Saint venu habiter en moi. En moi. On dit toujours que Jésus est avec nous. Et c'est vrai. On oublie souvent que le Saint-Esprit est en nous. Et que cet Esprit Saint qui est en nous, c'est le même Esprit que celui qui allait ressusciter Christ d'entre les morts. C'est l'Esprit qui a cette force irrésistible. C'est l'Esprit qui a toute la sagesse et tout l'amour. Donc c'est à moi de prendre conscience des fausses croyances que je peux avoir sur Dieu, des fausses croyances de ma vision de Dieu, et que je les corrige. Et quand je parle d'un troisième acteur, du destructeur, ce troisième acteur peut aussi biaiser la connaissance que j'ai de Dieu. Dieu est-il réellement parfaitement bon ? Dieu est-il réellement parfaitement juste ? Est-ce que je crois vraiment ça ? Est-ce que je crois que Dieu est réellement, complètement, totalement bon ? Qu'il n'y a en lui aucune once de mal ? Et pour corriger ces fausses croyances, ben, il n'y a pas d'autre moyen que de lire, d'étudier, de ruminer sa parole et de passer du temps avec lui dans le secret de ma chambre. pour mieux le connaître, pour le connaître tel qu'il est vraiment. Et c'est pour ça que quand on travaille dans la louange, on travaille vraiment avec les Lydies, on travaille vraiment sur les attributs de Dieu, sur qui est Dieu, sur sa personne, indépendamment de ce qu'il fait ou ne fait pas pour moi. Comme on a dit tout à l'heure, on l'adore pour qui il est. Qui il est, complètement indépendamment de moi. Ce Dieu immuable qui ne change pas. D'autres obstacles peuvent venir de moi. Le manque de discipline, le fait que je ferme la porte, que je ne m'arrête pas, ça peut être un obstacle. Ben, l'obstacle, quand je lisais, je cherchais ce matin dans la Chouraki comment était traduit ce verset de Matthieu 6,6, et c'est marqué « Entre dans ta cellule, ferme la porte ». Et je trouve le mot « cellule » m'a parlé. Donc ça nécessite vraiment de se mettre à l'écart et de s'arrêter, et d'avoir conscience de mon absolue dépendance de lui. Et puis il peut y avoir aussi des fausses croyances sur moi, le péché en moi qui m'empêche de venir et le péché qui m'amène à la culpabilité et qui m'empêche encore plus de venir, ou un péché par rapport aux autres, et puis de l'orgueil ou de la fausse humilité, ou la vaine gloire, la jalousie. Et pour ça, il est important de poser une routine. Les pères du désert avaient l'habitude de dire que ce qui est le plus difficile dans la vie chrétienne jusqu'à la fin de notre vie, c'est la seule discipline qui reste une lutte jusqu'à la fin de notre vie, c'est la prière. C'est la prière. Donc on sait que c'est une lutte, on sait que c'est un combat, et c'est pour ça que c'est important de se donner les moyens et de poser une routine régulière. Toutes les fausses croyances que je peux avoir sur moi se corrigent en travaillant mon identité en Christ. Ce matin, on a chanté « Je sais qui je suis en lui ». Plus je sais qui je suis en lui, plus je sais que je suis cet enfant bien-aimé, plus je peux venir à lui sans culpabilité. Il m'accueille tel que je suis à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Si la mauvaise... Ce qui m'empêche de venir, c'est mon péché. Nous connaissons 1 Jean 1,9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés et nous purifier. Son pardon repose sur ma confession et sur sa fidélité et sa justice. Rien d'autre que sa fidélité et sa justice. Quand j'ai confessé mon péché, c'est grâce à sa fidélité et sa justice que je suis pardonnée. Je n'ai pas besoin de rester dans la culpabilité. Et puis s'il y a quelque chose à confesser par rapport à autrui, eh bien c'est sûr que c'est la demande de pardon ou l'accord de pardon. Et ça demande une forme d'introspection sous le regard du Saint-Esprit. On connaît la fin du psaume 139 qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Vous connaissez la suite ? Éprouve-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, de la vérité. Non pas une introspection personnelle qui pourrait être trop dure si je suis trop légaliste ou qui pourrait être trop tendre si j'ai l'habitude d'être un peu plus laxiste. Finalement, c'est pas si mal que ça. Mais vraiment le regard du Saint-Esprit qui vient me sonder. Et quand le Saint-Esprit vient me sonder et me convaincre de péché, jamais il ne me condamne. Ça n'est jamais pour m'écraser ou pour me culpabiliser, c'est toujours pour me libérer. Il me libère, il me corrige, il me redresse, il m'amène à me jeter dans ses bras de miséricorde. Et j'ai envie de dire, en pleurant et en riant en même temps, en pleurant à cause de mon péché et en riant parce qu'il m'accueille et me pardonne et m'ouvre ses bras. Pardon et merci pour ton pardon et ta libération. Sans lui, je ne peux pas porter de bons fruits. Tout cela demande authenticité, vérité de ma part et conscience de mon incapacité à faire quoi que ce soit. Même demander pardon, je ne peux pas le faire sans lui. Quels que soient les obstacles, tout peut changer avec une piété régulière, une routine régulière. Donc on va voir ce qui peut nous motiver à développer cette routine régulière pour vivre dans ces dialogues avec Dieu de manière de plus en plus permanente, pour entrer dans notre chambre, dans notre cellule et fermer la porte pour développer de plus en plus la communion avec lui. Et il dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. J'ai envie de dire juste cette communion qu'on vit avec lui dans ces moments-là et qui se prolonge dans nos journées est déjà une récompense. Et il y en a bien d'autres. Il y aura les réponses à nos prières, il y aura tout ce qu'on vivra dans l'éternité avec lui. Mais la première récompense, c'est d'être dans la communion avec lui. Voyons les motivations. Je m'arrête d'abord sur les mauvaises. Je vous ai dit tout à l'heure que notre passage commence par un « mais ». « Mais toi quand tu pries ». Donc ce « mais » fait opposition à quelque chose qui se situe avant. Ce qui se situe avant, je le lis en l'abrégeant, « gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. » Il est question de l'aumône, du jeûne et de la prière. « Ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. » Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout devant les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Première mauvaise motivation, l'orgueil. Être vu ou entendu. Et puis la vaine gloire ou l'hypocrisie. Il peut y avoir aussi la volonté de manipuler Dieu par des répétitions de vaines paroles. Il peut y avoir une forme de légalisme. Je ne veux pas du tout condamner, mais on voit beaucoup les musulmans en ce moment avec le ramadan qui marquent des points au fur et à mesure qu'ils jeûnent ou qu'ils prient. On n'est pas là pour marquer des points avec Dieu. On est là pour être dans la communion avec lui. Alors on va voir plutôt les bonnes motivations. D'abord, la première, c'est que la prière est un acte d'obéissance, mais pas une obéissance légaliste. Non, une obéissance par amour. Et pour ça, je vous propose de voir ou de revoir Jean 14, 21, parce qu'il me semble que j'en ai déjà parlé une fois ici. Ce même verset qui est répété 5 fois dans le chapitre 14, à la fois de manière positive et de manière négative. Il est répété aussi dans Jean 15, dans Jean 16, il est répété encore dans les épîtres de Jean. Celui qui a mes commandements et qui les garde, ça veut dire et qui leur obéit, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Plus j'obéis à Dieu, plus je l'aime. J'obéis parce que je l'aime et je l'aime, donc je lui obéis. Mon obéissance est juste la preuve de mon amour, la démonstration de mon amour. Et plus je lui obéis, plus je l'aime, plus il se révèle. Et qu'est-ce qui se passe quand il se révèle de plus en plus? Je l'aime plus. Et si je l'aime plus, je lui obéis plus. Et si je lui obéis plus, il se révèle plus et je le connais plus et je l'aime plus et je lui obéis plus et il se révèle plus. Et on est vraiment dans une spirale de croissance que j'appelle aussi parfois la spirale de la connaissance ou de l'obéissance. Dieu veut se faire connaître. Il attend notre obéissance. L'amour n'est pas qu'un sentiment. L'amour est aussi une volonté, un engagement. Et quand on vit en couple, on sait très bien ça, que l'amour est aussi volonté et engagement. La prière au sens de la relation est motivée par notre amour, notre désir de le rencontrer. Que nous ressentions sa présence ou pas, si nous nous attendons à toujours ressentir sa présence pour lui obéir, pour le prier, on est fichu parce que dès qu'on ne ressent plus sa présence, on se croit abandonné. Mais c'est l'assurance qu'il est là, car sa parole le dit et elle est vérité. Il dit qu'il est là, que je ne le ressente ou que je ne le ressente pas, alors assurément il est là. Et il nous accueille et nous écoute quand nous venons à lui. Et dans cette obéissance, il nous parle de plus en plus, il se révèle de plus en plus. Et on entre dans cette spirale. Et cette spirale n'a pas de fin. Cette spirale, elle n'aura une fin, enfin, elle en a une, elle en aura une dans l'éternité. Mais ici-bas, elle n'en a pas. Donc vraiment, nous pouvons garder conscience, et cette deuxième motivation, c'est que Dieu veut se révéler, Dieu veut se faire connaître. Il aspire à la rencontre avec ses bien-aimés, il s'en réjouit. Le psaume 148 nous dit qu'il y prend plaisir. Et il nous donne d'y aspirer pour nous faire entendre ses paroles. C'est Deutéronome 4 qui dit ça aussi. Il veut nous faire entendre ses paroles. Il veut nous faire connaître sa volonté. Et il nous appelle ses amis, comme je le disais tout à l'heure. Edward Bounds, dans le livre « Splendeur dans le secret », dit « Communiquer avec le Tout-Puissant », et on pourrait dire « communier avec le Tout-Puissant », nous pousse à prier de plus en plus ardemment. Ce sont ceux qui connaissent le mieux Dieu qui sont le plus efficaces dans l'intercession. Ça se fait progressivement, c'est un cheminement, un pas à la fois. Et ça nous amène à notre troisième motivation, c'est que Dieu chemine avec nous. Et dans ce cheminement, il vient toujours à notre rencontre là où nous en sommes et nous entraîne lentement vers des choses de plus en plus profondes. Il ne nous demande pas d'avoir 25 ans quand on en a 5. Ça veut dire qu'on a le droit de ne pas savoir. On a le droit de se tromper, on a le droit de poser des questions, de faire des expériences, d'apprendre. Et notre meilleure source d'apprentissage, c'est la Bible, révélée par l'Esprit. Et ne pas savoir ou avoir peur de mal demander, ou penser ne pas avoir assez de foi, ne peut pas être un prétexte pour ne pas demander. Mais au contraire, ça doit nous conduire à chercher, car Dieu vient nous chercher là où nous en sommes. Et il chemine avec nous. Quatrième motivation pour enrichir notre vie de prière, et là je parle de la prière de demande, c'est que Dieu aime donner, Dieu se plaît à donner. C'est sa nature, ce sont ses promesses. Il veut donner, il aime donner, il est un Dieu généreux. C'est sur les qualités de Dieu, sur sa nature que se fonde ma foi. Il est un Dieu incroyablement généreux. D'où l'importance de le connaître, d'avoir une image juste de qui il est, parce que cela augmente ma foi. Il répond parce qu'il est un Dieu fiable qui tient ses promesses. Il dit qui il fait, qui il est, et il fait. Il dit qui il est et il est ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Et il est le Tout-Puissant, ce Dieu dont la puissance est irrésistible. Si nous prenons la prière de Néhémie, dans Néhémie 1, verset 5, le début du livre de Néhémie, vous savez, Néhémie, il est déporté à Babylone, il veut aller reconstruire la muraille de Jérusalem parce qu'il a appris que Jérusalem et les murailles sont détruites, et il s'humilie devant son Dieu. Et il commence sa prière, toute sa prière repose sur les qualités de Dieu. Il commence sa prière en disant « Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, on a déjà Jean 14 là. Que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Il n'a encore rien demandé. Toute la prière de Néhémie est fondée sur la nature et les promesses de Dieu. Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Et seulement après, il se repent et il intercède. Et on a ce même type de prière dans le livre de Daniel. Il commence exactement sa prière de la même manière, en rappelant à Dieu ses qualités, en rappelant à Dieu ses promesses. Et Daniel, dans la continuité de sa prière, va demander, mais tout en demandant, il ne va pas cesser de rappeler à Dieu qui il est. Tu es un Dieu juste, tu es un Dieu compatissant. C'est à cause de tes œuvres, de tes grandes compassions, ça n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications, mais c'est à cause de tes grandes compassions. Dans toute sa prière, Daniel rappelle à Dieu ses qualités. La nature de Dieu et ses promesses sont un véritable appui pour notre foi et notre prière. La cinquième motivation pour développer notre vie de prière, c'est la dernière, je vous rassure. Notamment pour la prière de demande, c'est bien sûr le fait que Dieu exauce nos prières. Il répond à nos prières, il manifeste sa présence et sa gloire. Jacques nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans son amour, il nous veut ouvriers avec lui, co-agissant avec lui. Son plan est de travailler avec nous au travers de nous, par nous, pour notre propre bonheur, c'est ce qu'il veut. Parce qu'il nous aime, il nous rend participants, collaborateurs à son œuvre, coactifs avec lui. Nous sommes son corps sur cette terre, ses mains, ses pieds. Il intègre nos prières dans ses plans. Mais c'est vrai que toutes nos prières ne sont pas exaucées. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que sinon là, on serait vraiment dans une forme de manipulation de Dieu. Il reste ce mystère de la souveraineté de Dieu. La prière n'est pas une solution magique. Dieu n'est ni à notre service, ni un distributeur automatique. Il est le Dieu souverain qui tient tout dans sa main. Il est le Créateur. Et nous ne sommes que ses créatures. Il a toutes les données en main et il sait mieux que nous ce qui est bon, agréable et parfait. Et il y a aussi certaines promesses qui sont conditionnées par notre attitude, par notre obéissance. Par exemple, dans Jean 15, on a ce verset 7 qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, afin que votre joie soit parfaite. » Il veut nous réjouir. Il veut nous donner. Le non-exaucement reste un mystère, surtout quand on a l'impression que toutes les conditions sont réunies. Mais là encore, l'éventualité d'un non-exaucement ne peut pas être un prétexte pour ne pas demander. Dieu nous répète à maintes et maintes reprises, et on l'a expérimenté X fois, il entend nos prières et il répond. Je reprends les différentes motivations. Voilà, c'est ça que je voulais avant, merci. Dieu nous donne toujours la réponse que nous aurions aimé avoir si nous savions ce qu'il sait. C'est un étudiant de défi qui m'a donné cette citation. Et je l'ai gardée parce que je l'aime bien. Dieu nous donne toujours ce que nous aurions aimé avoir si nous savions ce qu'il sait. Je vais récapituler les 5 motivations et nous laisser une ou deux minutes de réflexion pour que dans ces 5 motivations, vous puissiez choisir une ou deux qui vous parlent particulièrement aujourd'hui dans la période de vie où vous êtes, en fonction aussi de votre personnalité, de votre spiritualité. Retenez-en une, peut-être deux, n'essayez pas de tout garder, mais qu'est-ce qui peut vous, personnellement, vous motiver aujourd'hui pour aller dans votre chambre, fermer la porte et prier votre Père dans le secret. Je nous laisse une ou deux minutes de silence. En réfléchissant avec vous, je me dis que finalement, la motivation qui me parle le plus, elle est dans la définition. J'ai défini la prière comme cette relation d'amour continuelle et croissante avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et bien, la motivation, moi, qui me pousse à aller dans ma chambre, c'est l'amour. Alors, je ne l'ai pas énoncé tel que, mais c'est vraiment ce partage d'amour, aimer Dieu et me laisser aimer de lui. Je résume donc, définition, relation d'amour continuelle et croissante avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Obstacle, venant de Dieu, il n'y en a pas, venant de moi, apprendre à mieux le connaître, apprendre à mieux me connaître et travailler sur mon identité en Christ, et puis confesser mon péché. Et puis les motivations, principalement un échange d'amour, Dieu veut et aime donner. Je termine avec quelques citations, celle de Richard Foster. Pour les grands explorateurs de la foi, la prière n'était pas une habitude dans leur vie, c'était leur vie. Ne nous décourageons pas, il continue un peu plus loin, ne nous décourageons pas en écoutant le récit de grandes figures dans la prière. Rappelons-nous que Dieu vient toujours à notre rencontre là où nous en sommes, nous sommes dans cette relation d'amour, et qu'il nous entraîne lentement vers des choses de plus en plus profondes. C'est un entraînement, un pas après l'autre, un progrès après l'autre. En nous attendant, par exemple, j'étais surprise en lisant ça, mais oui, pourquoi pas, en nous attendant, par exemple, pour la prière de demande à ce que dans un mois, dans un an, nous prions avec plus d'autorité et d'efficacité. De toutes les disciplines spirituelles ou de tous les moyens de grâce, la prière est la plus centrale parce que c'est elle qui nous introduit à la communion perpétuelle avec le Père. Elle est créatrice de vie et transforme la vie. Quelqu'un m'a offert un petit aimant que j'ai mis sur mon micro-ondes qui dit « La prière ne fait pas que changer les choses, elle te transforme. » Et je lis ça plusieurs fois, régulièrement. Et puis une autre citation aussi, « Prier, c'est changer. La prière, j'aime bien celle-là aussi, c'est l'avenue centrale dont Dieu se sert pour nous transformer dans ses rayons d'amour. » Pour certains, peut-être que cette relation d'amour continuelle et croissance avec Dieu, c'est déjà votre quotidien. Pour d'autres, ça peut vous sembler difficile, voire impossible, parce que vous avez essayé et puis ça ne tient pas dans la durée. Mais je peux vous assurer que c'est possible. Pourquoi est-ce que c'est possible ? Parce que Dieu a fait habiter en nous son Esprit Saint. En nous son Esprit Saint. Alors demandons à Dieu de nous donner cette soif de mieux le connaître, d'être toujours plus en communion avec lui. Il nous amène toujours plus loin dans cette relation avec lui, pour que nous puissions dire, comme François d'Assise, alors il a dit ça à la fin de sa vie, peut-être qu'on a encore un petit peu de temps pour pouvoir le dire, quoique on ne sait pas quand sera la fin de notre vie, mais François d'Assise, à la fin de sa vie, après avoir été incroyablement éprouvé, a pu dire « Dieu est et cela suffit ». Que nous puissions dire « Dieu est et cela suffit ». Luc nous dit « Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à celui qui le demande ?» Alors osons demander à Dieu plus de communion, une relation plus profonde, une prière efficace. Osons nous offrir toujours plus pleinement à celui qui nous aime tant, parce que par sa puissance qui agit en nous, il fait sa puissance irrésistible qui agit en nous, il fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui seul soit toute la gloire. Ça me réjouit, je ne sais pas pourquoi, ça me réjouit de me dire que vraiment ce Dieu-là, si bon, si grand, si puissant, veut faire en moi et au travers de moi, infiniment au-delà de tout ce que je demande ou je pense. J'ai envie de sauter de joie, je ne vais pas le faire, mais voilà. Je voudrais simplement là aussi nous laisser un petit temps de réflexion et puis prier avec vous.